16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre. Deux heures pour se cultiver tout en se déridant. En compagnie d'un garçon qu'on m'avait vendu comme jovial et cultivé. Ouais. Il n'y a pas à dire, oui. Hein. Il est très jovial. Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Moi aussi je suis ravi de retrouver celui qu'on m'avait vendu comme rieur et incollable. Et après une saison de quiz, je suis en mesure de le confirmer. Vous êtes très rieur Stéphane, un peu comme nos personnages du jour qui nous mettent du baume au cœur aujourd'hui.
Oui Mathieu, chaque jour, vous le savez, on réunit trois personnages issus d'époques différentes, mais ayant un point commun. Aujourd'hui, ils l'ont dit avec des fleurs.
Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses.
À commencer par l'américaine Georgia O'Keeffe, elle l'a dit, mais elle les a peintes aussi. Des fleurs qui sont au cœur de l'œuvre de cette figure incontournable de la scène artistique new-yorkaise du début du XXe siècle, qui compte parmi les artistes féminines les plus cotées de l'histoire. Puis, elle l'a dit avec une fleur et une seule. La jeune Jan Rose Casimir s'est opposée aux soldats armés avec une fleur pour seule arme. Retour cet après-midi sur une image symbolique immortalisée lors d'une manifestation contre la guerre du Vietnam et qui a fait de cette jeune fille une icône de la non-violence dans le monde entier. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait d'un fleuriste pas comme les autres.
Oui, un fleuriste star que pourtant vous ne connaissez peut-être pas, Lewis Miller. Si vous vous baladez dans les rues de New York et que vous voyez de sublimes bouquets jaillir d'une poubelle ou d'une vieille cabine téléphonique, n'ayez pas peur, c'est lui.
Les fleurs qui ont dû être bien arrosées ces derniers jours.
Comme vous dites, portrait d'un original qui réenchante la ville bénévolement, même s'il vend aussi des petits bouquets plus classiques et un peu moins bénévolement, vous verrez.
Alors eux non plus ne sont pas totalement bénévoles. Hein. Ce sont nos fidèles chroniqueurs, Mathieu. Elle est la première, puisque les dames d'abord, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour Clémentine.
Bonjour Clémentine. Non, mais pas bénévole, vous croyez vraiment que je m'infligerais un truc pareil si j'étais bénévole?
Si vous aviez besoin, non, je viens de dire que vous ne l'étiez pas justement.
Si, ben voilà,
faut comprendre le français, madame.
Oui, moi, y en avoir compris. Alors, vous, y en avoir, vous souvenir que je vous avais parlé du premier prix Nobel de la paix il y a 120 ans, c'était qui? Vous vous souvenez ou non? Je vous en ai parlé la semaine dernière.
Mais oui, mais c'est loin la semaine dernière.
Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. Est-ce que vous pouvez, là, tous les quatre, me dire qui est la première femme à avoir eu le prix Nobel de la paix en 1905?
C'est évidemment Bertha von Suttner.
Exactement, bravo, tricheur. Voilà, alors voilà, tout à fait. Bertha, vous ne la connaissez pas, c'est honteux.
Et elle
était un peu dans l'un de vos personnages, là, Stéphane. C'était une adepte de la fleur au fusil. Ouais. Bertha von Suttner, première femme, prix Nobel de la paix. Ouais. Bande d'andouilles, vous allez au moins apprendre quelque chose tout à l'heure. Non mais je vous jure, bénévole.
Toi Clémentine, vous avez cherché un sujet qui colle au thème de notre émission, les fleurs. Est-ce que c'est le cas de David Castillo-Lopez?
Oui, bien sûr, c'est un chemin bordé de fleurs dont il va
tout
nous parler.
Fait, ah oui, tout à fait, le canal de Panama.
Ah oui, voilà,
le canal de Panama, les origines du canal de Panama. Mais en fait, j'ai des instructions qui divergent. On me dit, il faut que tu colles au thème ou il ne faut précisément pas que tu colles au thème. Je ne sais plus quoi faire.
Une contre-programmation au sein de l'émission.
Exactement.
Mais vous pouvez décider par vous-même aussi, parfois.
Oui, mais j'ai des supérieurs hiérarchiques. Hein, Benjamin Delsol, le rédacteur en chef de l'émission, qui me donne des directives. Quand même.
Très bien. Eh bien, Olivier Pouls, qui a la barbe fleurie et qui aime...
Alors, c'est vrai que j'aurais pu vous faire les fleurs dans la cuisine, mais ça m'ennuie profondément parce que
vous n'aimez pas
ça n'a aucun intérêt.
Les fleurs de courgettes, c'est bon.
Oui, alors les fleurs de courgettes, c'est très bon, mais on l'a déjà fait. Oui. Et puis toutes les fleurs décoratives qu'on trouve dans les assiettes, c'était la mode il y a quelques années. Ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien, on ne sait jamais si on doit les manger, pas, ça n'a pas de goût. Ouais. Donc, j'ai fait quelque chose de plus intéressant, d'un peu plus roboratif aussi. Je vous parlais de Bria Savarin, alors pas de l'écrivain évidemment, mais du fromage qui porte son nom. On verra pourquoi il porte son nom, puis d'où il
vient. Bien crémeux. Hein.
Il faut savoir se faire plaisir dans la vie, Stéphane. Enfin, je le disais, on ne peut pas être rieur et incollable à la fois. Vers 5h-10, nous jouerons à Burn to be Alive. À ce titre, vous pouvez d'ores et déjà envoyer des fleurs à Stéphane, de préférence des chrysanthèmes. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage à l'avoir dit avec des fleurs. Stéphane Bern nous raconte l'artiste peintre Georgia O'Keeffe.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Je déteste les fleurs, je les peins uniquement parce qu'elles sont moins chères que des mannequins et qu'elles ne bougent pas. Cette phrase, Georgia O'Keeffe l'aurait lancée à la figure d'un journaliste lors d'une interview en 1954. Drôle de sentence pour une artiste dont la notoriété doit beaucoup à ses tableaux de fleurs monumentales. On y décèle pourtant toute la répartie, tout l'humour et tout l'aplomb de l'une des plus grandes artistes du XXe siècle. Georgia O'Keeffe est une petite fille du Midwest américain que les vastes plaines du Wisconsin ont habituée à l'immensité. Dès son enfance, passée au milieu des champs de blé dans les dernières années du 19e siècle, Georgia se distingue par un caractère indépendant, presque frondeur. Elle sera artiste, elle le sait. Rien d'autre ne l'intéresse. L'adolescente se forme à l'Art Institute de Chicago avant d'intégrer la renommée Art Students League of New York. C'est là que la jeune Georgia découvre un lieu, une toute petite galerie nichée dans les étages du 291 de la 5e avenue. C'est l'antre du photographe et de la figure de proue de l'art moderne américain, Alfred Stieglitz. Dans sa galerie, Stieglitz publie des essais critiques et expose Matisse, Cézanne, Picasso. Georgia O'Keeffe est très touchée par ce qu'elle voit. Tout est si libre, si différent du réalisme qu'on lui a inculqué. Au début des années 1910, la jeune femme s'installe au Texas pour enseigner l'art à son tour. Elle peint, mais ce qu'elle produit ne la satisfait pas. Ses aquarelles sont à son goût trop inspirées du travail de Rodin. Georgia a une ambition, se défaire de toutes les influences extérieures et des courants artistiques de son époque pour trouver sa propre voie. Ce qu'elle n'estime pas au niveau, elle le détruit. En 1915, enfin, Georgia est fière d'une de ses productions, une série de fusains qu'elle envoie à une amie restée à New York. Elle lui demande comme un service de les montrer à la seule personne qu'elle estime à même de les comprendre, Alfred Stieglitz. Son intuition est bonne. Le galeriste est bluffé par ce nouveau talent. Ce sont les choses les plus fines, les plus sincères et les plus pures qui sont entrées au 291 depuis un bon moment. En plus, elles ont été réalisées par une femme, ce qui est assez rare pour attirer son attention. Stieglitz décide immédiatement de les afficher. Nous sommes en 1916. Georgia n'a pas encore 30 ans. Quand la professeure apprend que ses œuvres sont visibles à New York, sans que le galeriste n'ait pris la peine de lui demander son avis, elle est furieuse. Et elle compte bien le faire savoir. La première rencontre entre la peintre et le galeriste est donc plutôt froide. Mais en réalité, Alfred et Georgia ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Ils commencent à s'écrire une lettre, parfois deux par jour. Après un an de cette correspondance, Alfred fait une proposition de rêve à Georgia. Venir le rejoindre à New York, tout frais payé, afin qu'elle puisse se consacrer entièrement à son art. La passion qui les lie grandit. Stieglitz quitte son épouse et s'installe avec Georgia. Il est fasciné par cette femme, rêve de l'étudier sous toutes les coutures. Il la photographie sous tous les angles, y compris nu. Son visage, ses mains, ses seins, sensuellement immortalisés par l'objectif. En 1921, Alfred expose ses photos dont l'audace cause un petit scandale. Très vite, tout New York ne parle que de cette peintre qui ose poser nue avec tant de naturel. Cette réputation va peser dans l'image de l'artiste et l'interprétation de son œuvre. À New York, Georgia et Alfred s'installent tout en haut d'un gratte-ciel de Manhattan au Chelton Hotel. La vue magique inspire une nouvelle étape de l'œuvre de Georgia. Elle peint les immeubles géants de la Grosse Pomme, les lumières de la ville, le port. Mais la ville n'est pas le seul sujet de Georgia O'Keeffe. Au début des années 20, elle commence à produire tout autre chose. Des fleurs. De petites fleurs, comme reflétées dans un miroir grossissant. Le sujet peut sembler évident, banal même pour une peintre. Le génie de Georgia est de se démarquer de la simple nature morte en zoomant sur ses modèles pour en révéler les formes, quasiment la texture et par là même la beauté et la sensualité. Agrandies, les fleurs sont à la fois extrêmement détaillées et presque abstraites. Les pistils et les courbes des pétales accrochent l'œil et intriguent. Les peintures surprennent et choquent parfois car ces fleurs transformées en objets monumentaux ne ressemblent à rien d'autre. Une fleur, écrit Georgia, c'est relativement petit. Une fleur, l'idée de fleur, cela parle à tout le monde. Pourtant, d'une certaine manière, personne ne voit vraiment une fleur. C'est si petit et cela prend du temps. Alors moi, je vais la peindre en grand et les gens seront si surpris qu'ils prendront le temps de la regarder, même à New York, où les gens sont si occupés. Pour les critiques, les fleurs de Georgia O'Keeffe n'ont rien d'anodin. Beaucoup, tous des hommes bien entendu, y voient un caractère organique, instinctif, quelque chose de très féminin et donc de peu réfléchi. Ramenés aux photos nues de leurs peintres, les tableaux de Georgia sont aussi regardés d'un point de vue psychanalytique. On décèle dans les pistils et les boutons de fleurs des références sexuelles évidentes, une interprétation érotique que l'intéressé réfute totalement. En 1924, Georgia épouse Alfred, mais elle sent au fil des mois que la passion s'affaiblit. Stieglitz finit par s'intéresser à une autre. Alors, lorsque Georgia O'Keeffe reçoit un matin une invitation vers une terre lointaine, elle n'hésite pas longtemps. Mais imagine-t-elle un seul instant comme ce voyage s'apprête à bouleverser sa vie et son œuvre? En 1929, Georgia O'Keeffe s'envole pour le sud des États-Unis, invitée à rejoindre une colonie d'artistes au Nouveau-Mexique. La découverte de la région est un formidable choc pour la peintre. Les grands espaces, la lumière, tout la séduit, lui semble en même temps familier. Cette terre, c'est sa maison. Georgia connaît pourtant, au même moment, un énorme succès à New York. Le tout nouveau musée d'art moderne, le MoMA, inaugure sa première exposition et choisit 19 artistes américains pour représenter le meilleur de la production nationale et parmi eux, une seule femme, Georgia O'Keeffe. Mais à la vie mondaine new-yorkaise, Georgia préfère une existence solitaire et sauvage. Au Nouveau-Mexique, elle acquiert une propriété, Ghost Ranch, perdue en plein désert. La peintre a la cinquantaine et elle ne craint rien, pas même les fantômes de ce lieu prétendu hanté où elle vit seule près de 6 mois dans l'année. Au milieu des coyotes, elle peint les crânes et les os d'animaux blanchis par le soleil, les canyons rouges et les montagnes noires, la culture des Indiens Pueblos. Ces paysages américains dégagent comme ces fleurs un sentiment charnel chargé d'un certain érotisme. À travers eux, c'est un attachement viscéral à la terre que Georgia exprime. Elle est suprêmement américaine, confie Stieglitz. En 1946, Alfred s'éteint. Les deux époux se sont aimés jusqu'à la fin malgré les difficultés. Désormais, Georgia n'a plus de raison de revenir à New York. À 60 ans, elle s'installe définitivement au Nouveau-Mexique. Sa notoriété ne souffre pas de cet éloignement. Bien au contraire, reconnue par ses pairs, Georgia est aussi très aimée du public. Au fil des ans, la plus américaine des peintres devient tout à la fois une icône nationale et une figure féministe. Tout en elle captive de ses tableaux à son mobilier, en passant par ses vêtements et son régime alimentaire. Immortalisée par les plus grands, d'Ansel Adams à Andy Warhol, elle est l'une des femmes américaines les plus photographiées de l'histoire, au même niveau que Marilyn Monroe. Georgia O'Keeffe meurt en 1986, presque centenaire, et figure toujours aujourd'hui parmi les artistes féminines les plus cotées de l'histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour en savoir plus sur Georgia O'Keeffe, nous avons le plaisir d'accueillir l'historienne Marie Garraud. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour Marie Garraud, vous êtes historienne de l'art et vous publiez, alors que le Centre Pompidou de Paris lui consacre une exposition, Georgia O'Keeffe, une icône américaine aux éditions Hazan. Qu'est-ce qui fait d'elle véritablement une icône ?
Vous parliez de Marilyn Monroe. Georgia O'Keeffe, c'est une star en Amérique. Tout le monde la connaît. C'est une star de son vivant, aujourd'hui encore. Et alors, c'est une icône de la peinture moderne américaine, un de ses fleurons qu'elle incarne à merveille. Et puis, au-delà de l'histoire de l'art, c'est une renommée qui dépasse l'histoire de l'art. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une personnalité médiatique. Et j'ai employé le terme d'icône qui renvoie celui d'image. Elle a été très sensible à son image, à l'image qu'elle s'est construite d'elle-même tout au long du XXe siècle, parce qu'elle traverse le siècle, une longévité incroyable. Et c'est une des artistes qui a été les plus photographiées, y compris par des grands photographes de mode new-yorkais.
Dans la biographie que vous lui consacrez, vous écrivez que Georgia O'Keeffe était la plus américaine des américaines. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi on la considère comme une représentante de l'esprit américain?
Alors, elle est américaine à plusieurs égards. Déjà, elle incarne le mythe américain d'une self-made woman, puisque là, c'est une femme qui a pris son destin en main. Qui était fascinée aussi par ses héros des récits de son enfance, donc de Billy the Kid ou Kit Carson. Elle est aussi américaine dans le sens où elle s'est déprise totalement du modèle européen qui était alors très présent et prescripteur dans l'art moderne au début du XXe siècle. Et puis ce qui est fascinant, c'est qu'elle incarne l'Amérique, c'est pas une Amérique monolithique, c'est une Amérique composite, donc c'est à la fois les pionniers et les Amérindiens, c'est la métropole hyper moderne, Chicago, New York, et la géologie, ces temps immémoriaux de l'Ouest américain.
Si Georgia O'Keeffe avait dit, comme je l'ai mentionné, j'ai donné cette citation, peut-être est-elle fausse. Je déteste les fleurs, je les peins uniquement parce qu'elles sont moins chères que des mannequins et qu'elles ne bougent pas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça nous a beaucoup amusés. Si c'est vrai, ça en dit long sur sa personnalité. Vous pensez qu'elle l'a dit et qu'elle le pensait vraiment ?
Je ne suis pas sûre qu'elle l'ait dit, je ne l'ai jamais lu, mais elle aurait tout à fait pu le dire. Je pense qu'il y a de la provocation, beaucoup d'humour. Ce n'est pas tout à fait l'image qu'on en a ou qu'elle a donnée à travers sa photographie qui montre une figure plutôt austère, on la voit peu souriante. Mais elle aimait beaucoup brouiller les pistes ou s'amuser avec les journalistes et les critiques. Qu'elle l'ait pensée, non. Non, elle aime les fleurs. Les fleurs sont la manifestation la plus simple, peut-être la plus belle, la plus proche de la nature, et c'est son grand sujet.
Mmh. Comment la critique, justement, accueille le travail de Georgia O'Keeffe lorsqu'elle présente pour la première fois ces grands formats de fleurs ? C'est complètement novateur.
Oui, et c'est immédiatement un grand succès, à la fois un succès d'estime et puis un grand succès commercial. Parce qu'elle vend très vite et des prix très élevés tout de suite. Elle est présente dans les années 20 à New York. Alors pourquoi c'est un pari assez culotté de faire ça quand on est une femme à New York, la scène de l'art moderne à ce moment-là. Et elle prend ce sujet banal, voire méprisé par les canons de l'histoire de l'art, pour en faire quelque chose d'éminemment moderne. Et ce qui est très moderne, c'est le format, c'est l'agrandissement de l'échelle. Et c'est montrer ses fleurs en gros plan. Qui rompent aussi avec les fleurs qu'on avait l'habitude de voir au 19e, qu'elle admire par ailleurs de Fantin-Latour. Mais voilà, là, elle fait autre chose.
Mais certains y ont vu justement des allusions, je ne sais pas comment dire les choses, mais...
Plus sexuelles.
Plus sexuelles, oui. Est-ce que vous pensez que c'était aussi ce que voyait la peintre qui les reproduisait ?
Alors, elle a démenti tout jusqu'à la fin de sa vie. Il ne s'agissait pas que les gens avaient vu de l'érotisme, mais qu'elle c'était pas conscient, donc c'était pas ce qu'elle avait l'intention de faire. Je sais pas s'il y a un double sens. En tout cas, ce qui est évident, c'est que ça fait partie de la vitalité, de la force vitale qui caractérise son rapport au vivant, à la nature, et qui fait le sel de toute sa peinture.
D'après ce que vous le dites dans votre livre, Georgia O'Keeffe était une écologiste avant l'heure. Expliquez-nous en quoi et pourquoi.
Elle avait un mode de vie extrêmement sain, frugal. Donc elle avait un jardin, elle cultivait son jardin, elle mangeait les productions de son jardin, une sorte d'autarcie comme ça. Elle était très attentive à la gestion de l'eau, surtout quand elle s'installe au désert. Enfin, elle a une conscience que ce sont des biens précieux, il y a un grand respect pour la faune, la flore. Alors, je disais écologiste avant l'heure, et en même temps, elle se calque sur des principes ancestraux des populations amérindiennes qui l'entourent. Donc il y a aussi un retour à la terre dont on parlerait aujourd'hui avec les mêmes termes.
Elle incarnait clairement la femme émancipée, ce qui fait qu'on l'a beaucoup qualifiée de féministe. Mais est-ce qu'elle était vraiment féministe au sens militant du terme ?
Alors militante, non. Il y a un peu de paradoxe dans l'histoire de Georgia, c'est que les féministes en ont fait un modèle. Elle l'a jamais revendiqué, théorisé. En revanche, on peut dire qu'elle est féministe dans ce qu'elle a accompli dans son œuvre. Elle a été très proche des mouvements féministes dans les années 10. Elle a soutenu le 19e amendement de la Constitution américaine pour le droit de vote des femmes. En revanche, elle est loin des mouvements féministes des années 70.
On connaît ses peintures de fleurs, évidemment, et de gratte-ciel, mais quelles sont les autres grandes étapes de sa carrière de peintre ?
Alors les fleurs et les gratte-ciel, c'est une période de sa vie qui, en gros, les années 20 et New York. Et sa peinture est très marquée, influencée par ses mouvements géographiques. Donc quand elle s'installe au désert, dans le sud-ouest, elle va peindre d'abord ce qu'on appelle les peintures du désert. Donc où elle va peindre ces formidables paysages de canyons, de plateaux, avec ses ossements. Qui sont, elle le dit, ces fleurs du désert. Et puis aussi l'esprit de cette terre qui est à la fois marqué par la colonisation espagnole et un catholicisme plutôt austère et une spiritualité amérindienne. Et puis, vers la fin de sa vie, il y a une sorte de simplification des formes et quelque chose qu'elle va peindre, les peintures vues du ciel, puisqu'elle commence à ce moment-là à voyager, enfin en tout cas à prendre l'avion, où il y a de très jolies lignes qui dessinent des cours d'eau, des chemins et qui rappelle de façon assez émouvante les œuvres de jeunesse. Et puis, il y a une dernière étape dont on parle peu, qui est moins connue, c'est qu'à la fin de sa vie, vers les années 70, elle perd progressivement la vue. Et elle va passer à une autre, puisque la peinture n'est plus possible, elle va sculpter. Donc, il y a aussi une œuvre sculptée.
Merci beaucoup, Marie Garraud. Je rappelle votre livre, Georgia O'Keeffe, une icône américaine, qui vient tout juste de paraître aux éditions Hazan. Et pour voir l'étoile de Georgia O'Keeffe, eh bien, en vrai, l'exposition qui lui est consacrée est à découvrir au Centre Pompidou à Paris. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Ils l'ont dit avec des fleurs. C'est le point commun de nos personnages cet après-midi, Stéphane, dans Historiquement vôtre. Et c'est un geste qui en dit long sur vous, Stéphane, puisque hors antenne, alors qu'on parle de la peintre Georgia O'Keeffe, vous m'avez dit que pour mon anniversaire, vous m'offririez Train at Night in the Desert. Je vous ai dit que c'était très beau. Vous m'avez dit qu'à cela ne tienne, je te l'offre. Bon, c'est une aquarelle 30 cm sur 22. Vous pouvez payer ce genre d'œuvre pour un ami comme moi. Ça fait plaisir, Stéphane. Je vous dis déjà merci. Pour parler de cette peintre incroyable, Georgia O'Keeffe, nous accueillons l'historienne de l'art Marie Garraud. Comment la critique, justement, accueille le travail de Georgia O'Keeffe lorsqu'elle présente pour la première fois ces grands formats de fleurs? C'est complètement novateur.
Oui, et c'est immédiatement un grand succès, à la fois un succès d'estime et puis un grand succès commercial, parce qu'elle vend très vite et des prix très élevés tout de suite. Elle les présente dans les années 20 à New York. Alors pourquoi c'est un pari assez culotté de faire ça quand on est une femme à New York, la scène de l'art moderne à ce moment-là. Et elle prend ce sujet banal, voire méprisé par les canons de l'histoire de l'art, pour en faire quelque chose d'éminemment moderne. Et ce qui est très moderne, c'est le format, c'est l'agrandissement de l'échelle. Et c'est montrer ces fleurs en gros plan, qui rompent aussi avec les fleurs qu'on avait l'habitude de voir au 19e, qu'elle admire par ailleurs de Fontaine à Tours. Mais voilà, là, elle fait autre chose.
Mais certains y ont vu justement une des allusions, je ne sais pas comment dire les choses, mais...
Plus sexuelle.
Plus sexuelle, oui. Est-ce que vous pensez que c'était aussi ce que voyait la peintre qui les reproduisait?
Alors, elle a démenti tout jusqu'à la fin de sa vie. Il ne s'agissait pas que les gens avaient vu... Il y avait vu de l'érotisme, mais qu'elle n'était pas conscient, donc ce n'était pas ce qu'elle avait l'intention de faire. Je ne sais pas s'il y a un double sens. En tout cas, ce qui est évident, c'est que ça fait partie de la vitalité, de la force vitale qui caractérise son rapport au vivant, à la nature, et qui fait le sel de toute sa peinture.
Stéphane le racontait dans son récit. Georgia O'Keeffe a défrayé la chronique à cause des photographies d'Alfred Stieglitz qu'il a immortalisé nu. Est-ce que ça a eu des conséquences sur la perception de son travail ?
Oui, ça, le fait que les photos aient été publiées juste avant ou en même temps que les peintures d'elle, ça a évidemment orienté tout de suite la critique. Le public a emboîté le pas à cette critique, qui a fait une interprétation de façon presque obsessionnelle, érotique et sexuelle.
On le disait, elle est originaire du Midwest, c'est-à-dire les grands espaces, etc., vers lesquels elle retournera quand elle s'installera au Nouveau-Mexique. Est-ce qu'elle était faite pour la vie new-yorkaise ou plutôt pour... Ou c'est peut-être les deux aspects de sa personnalité, à la fois la vie mondaine à New York et en même temps l'isolement dans le Nouveau-Mexique.
Elle aime peu les mondanités. Elle dit à un moment donné qu'elle a besoin de l'aiguillon de la grande ville pour peindre, à ce moment-là de sa vie. Une ville qu'elle connaissait, parce qu'elle avait fait aussi une partie de ses études là-bas. Mais elle est viscéralement attachée à ces grands espaces, au ciel, aux grandes plaines. Et quand une fois qu'elle s'installe au Nouveau-Mexique, elle dit qu'elle a enfin trouvé, enfin, elle est chez elle.
Elle a trouvé sa maison, c'est ce qu'elle
a trouvé,
dit.
Oui.
Il y avait beaucoup de photographes dans l'entourage de Georgia O'Keeffe, à commencer par son époux, Alfred Stieglitz. Dans quelle mesure la photographie a influencé son travail?
On parlait de cadrage tout à l'heure dans les gros plans des fleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans la photographie à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a pratiqué aussi la photographie, alors de façon amateur, elle a un appareil, elle s'intéresse beaucoup... à la perception du monde à travers la photographie. C'est aussi quelqu'un qui a influencé la photographie, on le dit moins, mais quand on pense à une artiste comme Imogen Cunningham qui a fait des photos très célèbres de fleurs et d'arômes, qui sont les photos des fleurs que peint aussi Georgia, Imogen Cunningham les peint 5 ans après Georgia. Donc elle a aussi influencé le regard des photographes.
D'après ce que vous le dites dans votre livre, Georgia O'Keeffe était une écologiste avant l'heure. Expliquez-nous en quoi et pourquoi.
Elle avait un mode de vie extrêmement sain, frugal. Donc elle avait un jardin, elle cultivait son jardin, elle mangeait les productions de son jardin, une sorte d'autarcie comme ça. Elle était très attentive à la gestion de l'eau, surtout quand elle s'installe au désert. Enfin, elle a une conscience que ce sont des biens précieux, il y a un grand respect pour la faune, la flore. Alors, je disais écologiste avant l'heure, et en même temps, elle revient, enfin, elle se calque sur des principes ancestraux des populations amérindiennes qui l'entourent. Donc, il y a aussi un retour à la terre dont on parlerait aujourd'hui avec les mêmes termes.
Elle incarnait clairement la femme émancipée, ce qui fait qu'on l'a beaucoup qualifiée de féministe. Mais est-ce qu'elle était vraiment féministe au sens militant du terme ?
Alors, militante, non. Il y a un peu de paradoxe dans l'histoire de Georgia, c'est que les féministes en ont fait un modèle. Elle l'a jamais revendiqué, théorisé. En revanche, on peut dire qu'elle est féministe dans ce qu'elle a accompli dans son œuvre. Elle a été très proche des mouvements féministes dans les années 10. Elle a soutenu le 19e amendement, la Constitution américaine qui pour le droit de vote des femmes. En revanche, elle est loin des mouvements féministes des années 70.
On connaît ses peintures de fleurs, évidemment, et de gratte-ciel, mais quelles sont les autres grandes étapes de sa carrière de peintre ?
Alors, les fleurs et les gratte-ciel, c'est une période de sa vie qui, en gros, les années 20 et New York. Et sa peinture est très marquée, influencée par ses mouvements géographiques. Donc, quand elle s'installe au désert, dans le sud-ouest, elle va peindre d'abord ce qu'on appelle les peintures du désert. Donc, où elle va peindre ces formidables paysages de canyons, de plateaux, avec ses ossements, qui sont, elle le dit, ces fleurs du désert. Et puis aussi l'esprit de cette terre, qui est à la fois marqué par la colonisation espagnole, et un catholicisme plutôt austère, et une spiritualité amérindienne. Et puis, vers la fin de sa vie, il y a une sorte de simplification des formes, et quelque chose qu'elle va peindre, les peintures vues du ciel, puisqu'elle commence à ce moment-là à voyager, enfin en tout cas à prendre l'avion. Où il y a de très jolies lignes qui dessinent des cours d'eau, des chemins, et qui rappellent de façon assez émouvante les œuvres de jeunesse. Et puis il y a une dernière étape dont on parle peu, qui est moins connue, c'est qu'à la fin de sa vie, vers les années 70, elle perd progressivement la vue, et elle va passer à une autre, puisque la peinture n'est plus possible, elle va sculpter. Donc il y a aussi une œuvre sculptée.
On parlait de ses voyages, on sent qu'ils ont eu une importance sur son travail, mais est-ce qu'ils ont influencé sa personnalité aussi, tous ces voyages qu'elle a fait à la mort de Stiglitz ?
Alors, Georgia O'Keeffe, c'est une aventurière. C'est qu'elle a eu toujours le goût à la fois des grands espaces et du voyage. La nouveauté, c'est qu'à la mort de Stiglitz en 1946, elle va prendre l'avion. Donc, on parlait des peintures qui sont directement influencées par ses voyages. Est-ce que ça a changé sa personnalité ? Ça lui a ouvert des perspectives sur le monde. Elle a découvert notamment l'Asie, qui la fascinait depuis ses études. Je crois que ça l'a aussi surtout confortée dans son attachement à sa terre, à cet endroit qu'elle avait trouvé au pied de sa montagne dans le désert. Et à la fin de sa vie, elle dit de façon aussi très émouvante que ce qui l'attriste dans la proximité de la fin, c'est qu'elle ne pourra plus contempler ce paysage. Et elle a souhaité que ses cendres soient dispersées dans ce paysage, parce que selon la coutume et croyance amérindienne, on peut éternellement contempler ce paysage.
Merci beaucoup, Marie Garraud. Je rappelle votre livre, Georgia O'Keeffe, une icône américaine, qui vient tout juste de paraître aux éditions Hazan. Et pour voir l'étoile de Georgia O'Keeffe, eh bien, en vrai, l'exposition qui lui est consacrée est à découvrir au Centre Pompidou à Paris. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle est la seule à connaître. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous présentez une femme qui aurait dû passer à la postérité, mais qui, une fois encore, a été oubliée. Son nom, Bertha von Suttner. Signe particulier, première femme prix Nobel de la paix.
Bah oui, hein, elle est tombée vraiment aux oubliettes de l'histoire, là, malheureusement. Enfin, cette amnésie devrait-elle surprendre quand on sait que seuls 4% des prix Nobel décernés depuis la création du prix ont été attribués à des femmes, ce qui représente 54 femmes pour
900 hommes.
Bravo, 866
oh,
hommes.
Oui
oh, bravo qu'il est fort.
Un point d'avance voilà. Dans l'épreuve de la lutte finale tout à l'heure.
Alors, en tout cas, pour son engagement pacifiste, c'est d'ailleurs elle qui a inventé le terme. Bertha von Suttner mériterait d'être tirée d'un oubli d'autant plus injuste qu'elle-même aurait joué un rôle déterminant dans la création du prix Nobel. Et oui, messieurs, Bertha Felicitas Comtesse Kinsky von Schinnick und Tetow, ça devrait vous plaire,
oui,
ça, Stéphane.
Oui.
Ah là, vous la connaissez
Voilà.
Quand on vous donne le nom complet.
C'était la même famille que la regrettée princesse souveraine de Liechtenstein qui vient de mourir.
Était Marie von Stéphane, vous lui dites von Schinnick und Tetow, là, tout de suite, pouf, oui. Réflexe pavlovien, il voit qui c'est.
Moi, j'ai l'impression d'être sur une autre planète, d'accéder à un autre monde quand je suis avec vous dans ce studio.
En tout cas, Bertha, si vous voulez bien. Elle naît à Prague le 8 juin 1843 dans une famille de l'aristocratie viennoise. Et son père meurt avant sa naissance, mais il laisse une très très belle fortune à son épouse. Donc Bertha bénéficie d'une excellente éducation, très soignée. Elle voyage beaucoup, elle apprend plusieurs langues. Et ça lui sera un jour extrêmement précieux quand il faudra qu'elle aille porter la bonne parole dans le monde. Mais sa mère, c'est vraiment un personnage d'aristocrate un peu excentrique, elle adore jouer et elle va perdre au jeu, dilapider toute la fortune dont elle a hérité. Du coup, Bertha ne peut plus espérer un sou vaillant de sa famille et elle est bien obligée de travailler pour vivre. Alors, de façon assez classique, elle devient gouvernante. Et gouvernante chez les von Suttner, c'est-à-dire une famille bien moins titrée qu'elle, mais beaucoup plus fortunée. La suite est extrêmement classique. Elle tombe amoureuse de l'un des fils von Suttner, Arthur, qui a quand même 7 ans de moins qu'elle. Alors la maman, pas contente du tout, la renvoie. Elle est expédiée à Paris. Et là, elle cherche du travail aussi. Et elle devient la secrétaire éclair d'Alfred Nobel. Bon, ça n'a duré que 2 semaines. Mais 2 semaines qui vont lui suffire pour convaincre Nobel, l'inventeur de la dynamite, qui lui-même est un pacifiste convaincu, de mettre sa fortune au service d'une organisation humaniste qui deviendra le prix Nobel. Hein, voilà, Bertha. Alors, le fils von Suttner, il aime sa Bertha. Il s'obstine contre l'avis de ses parents à vouloir épouser cette femme qui est plus âgée, qui n'a pas un sou. Il est instantanément déshérité. Les jeunes mariés quittent l'Autriche, ils s'installent en Géorgie. Drôle d'idée, hein, d'aller. C'est
joli,
loin.
C'est très joli.
Ouais, c'est joli, mais enfin, ça fait loin, hein, l'époque. Bon, enfin, ils vont en Géorgie, ils y resteront 9 ans, et ils vivent très chichement. Ils font des traductions, ils écrivent des romans, ils font des articles de presse. Et c'est là que Bertha commence à se passionner pour la thématique de la guerre et de la paix. C'est une idéaliste. Elle est convaincue que les hommes peuvent s'entendre et renoncer à se battre. Alors après. Réconciliation générale avec la famille von Suttner, tout le monde revient en Autriche et là elle devient une fervente militante pacifiste. Elle écrit un journal et ça c'est ce qui est quand même très extraordinaire. Elle écrit un ouvrage intitulé Die Waffen nieder, ce qui en français signifie « bas les armes » ou « jamais les armes, arrêtez les armes, bas les armes ». Et cet essai antimilitariste publié en 1889 évoque la guerre du point de vue d'une femme. C'est un succès foudroyant. Vous savez à combien elle a vendu d'exemplaires ? Die Waffen nieder, publié en 1889, je vous le donne en 1000, 2 millions d'exemplaires, traduits en 12 langues, ce qui pour l'époque est proprement incroyable. Faut-il qu'on sente un peu sourdre une espèce d'opposition entre puissance colonialiste qui va quand même mal tourner. Et sur sa lancée, Bertha crée une société pacifiste autrichienne. Et puis, elle va être la vedette du 3e Congrès international de la paix qui se tient à Rome en 1891. Elle y prononce son premier discours public dans un italien parfait. Et oui, ça sert d'appartenir à une famille aristocratique qui vous fournit des gouvernantes dans toutes les nationalités. Alors, premier discours de Bertha sur le désarmement, le règlement des litiges entre le pays, la demande de création d'une union internationale de la paix dont elle va devenir d'emblée la première vice-présidente. On est loin d'avoir le droit de vote en France à cette époque, notamment, vous rendez compte, elle est vice-présidente de cette union pour la paix à une époque où les femmes sont exclues de toute forme de responsabilité politique. Donc, c'est quand même admirable. C'est pour ça que Bertha von Suttner, il faut redire son nom. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans les milieux pacifistes, là, alors elle est très appréciée, on l'appelle Friedens Bertha, mais ceux qui ne peuvent pas la voir, on pense qu'elle est hystérique et ils l'appellent Friedens Fury. C'est pas chic. Elle correspond avec Nobel et Jaurès, qui ont beaucoup d'admiration pour elle, et elle leur fait part de sa vision d'un rêve, d'une Europe pacifique qu'elle nomme Pan-Europa. Voilà, elle ira, avec cet engagement pacifiste, elle ira jusqu'aux États-Unis où en 1904, elle sera reçue par le président Theodore Roosevelt. Et l'année suivante, donc, le 10 décembre 1905, elle devient la première femme à obtenir le prix Nobel de la paix. Elle disparaît 9 ans plus tard, 21 juin 1914, heureusement, d'une certaine manière, parce qu'elle n'a pas vu la Grande Guerre, elle n'a pas vu l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Et en 1910, soit 4 ans avant sa mort, elle avait prédit dans un roman une guerre mondiale apocalyptique. L'avenir allait lui donner cruellement raison. En juillet 14, dans l'Europe entière, le slogan du moment, c'était plus « Die Waffen nieder », c'est-à-dire « bas les armes », mais plutôt « aux armes citoyens ». Belle figure de femme, Bertha von Suttner, et pour Stéphane, Felicitas, Comtesse, Kinski, von Schinnik und Teto.
Wischnitz und Teto.
Ah, merci.
Je vous remercie, Clémentine. C'était magnifique. Je suis bouche bée.
Vous êtes sous le choc. Quand on pense qu'avant la chronique, vous ne connaissez pas et vous avez demandé s'il s'agissait de la grosse Bertha en rigolant de manière un petit peu grasse. Et voilà vous êtes scié par ça.
Et en fait, il connaît que ça.
Bertha. Bien sûr, c'est les canons allemands.
Bertha Krupp.
Bertha Krupp, évidemment.
Qui avait une belle croupe. Et...
Non, mais j'essaie de vous sauver.
Je m'enfonce. Bertha Krupp qui a donné. On parle d'une pacifiste. De l'autre côté, vous avez une arme de guerre.
Mais oui, c'est vrai. Ah, il fallait souligner.
Oula, il s'en sort bien. Là, oui.
Il s'en sort pas mal. Il se raccroche aux branches. Mais sera-t-il aussi fort dans le quiz? Restez avec nous.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, dit le célèbre adage. Un adage qui, visiblement, n'est pas arrivé aux oreilles de Stéphane Bern, qui n'hésite pas à user de son pouvoir pour priver Clémentine de la victoire dans le quiz.
Il faut la maîtriser, parfois elle prend le dessus.
Jouons à Bern to be alive. Notre fameux quiz, chaque après-midi, Stéphane Bern contre Clémentine Portier-Kaltenbach. Et on commence toujours par vous, Stéphane, je ne sais pas trop pourquoi, c'est comme ça. C'est la tradition. L'univers est une espèce de livre dont on n'a lu que la première page quand on n'a vu que son pays. Cette magnifique citation est de Charles Fougeret de Montbron, homme de lettres du XVIIIe. On lui doit toutes sortes d'ouvrages, notamment Le Cosmopolite ou Le Citoyen du Monde, où il raconte ses voyages, mais on lui doit aussi Margot la Ravaudeuse, un roman en libertin qui a eu beaucoup de succès en 1750. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'une ravaudeuse? Il n'y a pas de proposition.
C'est facile.
C'est à Stéphane que je pose la question, pas à vous.
Bah c'est celle qui répare, répare les habits, qui ravaude. Une ravaudeuse,
c'est celle qui
répare les vêtements.
Les vêtements, elle
recoue. Réponse,
elle recoue les vêtements.
Vous avez gagné.
Une question sans piège, c'est possible. Dans le même
parce
qu'elle
arrive. Oui, nous mettre le doute là.
Je vous ai donné un petit ascenseur émotionnel comme ça pour un
Je me suis dit peut-être qu'elle réparait d'autres choses dans un roman en polisson.
C'est une personne qui reprise les bas, mais aussi les vieux habits. Dans le roman, la jolie Margot est sans le sou. Elle propose ses services de couture à même la rue, mais sa situation financière va vite s'améliorer. Je ne vous dis pas comment, pour ne pas gâcher le suspense. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Le Rongo-Rongo rassemble tous les écrits trouvés sur l'île de Pâques. Il était utilisé par les Matamois, ceux qui ont construit les célèbres statues. Après avoir déchiffré le Rongo-Rongo, on sait surtout qu'ils étaient en guerre perpétuelle entre tribus. C'est ce qui a vraisemblablement causé leur perte. Vrai ou faux?
Est-ce que c'est ce qui a causé leur perte ou est-ce que c'est une épidémie qui aurait... Je me demande si on s'est pas interrogé là-dessus sur le fait de savoir si la population n'aurait pas été éradiquée par... par le surgissement de voyageurs étrangers, un peu comme la rougeole avec les Indiens. Vous me dites que ce sont les guerres entre tribus qui auraient...
C'est ce qu'on a compris en déchiffrant le Rongo-Rongo.
Bien sûr, vous connaissez le Rongo-Rongo, Stéphane, qui prend un air très averti, là, très péremptoire.
J'en ai entendu parler depuis au moins 30 secondes.
C'est mon livre de chevet, le Rongo-Rongo, bien sûr. Écoutez, les tribus seraient très radiquées. Ce qui me paraît curieux, c'est qu'il serait quand même resté quelques individus. Non, je veux répondre faux.
Vous avez gagné.
Et par hasard, en répondant n'importe quoi, c'est la bonne réponse. Mais pourquoi? Pas du tout une histoire de massacre de tribus. La question était, après avoir déchiffré le Rongo-Rongo, on sait surtout... Mais on n'a jamais réussi à traduire le Rongo-Rongo.
Ah, voilà.
Parfois, on peut reconnaître des dessins et faire des suppositions.
Stéphane vient de nous dire qu'il...
Stéphane,
j'ai jamais dit.
La seule personne qui peut comprendre le Rongo-Rongo...
J'ai jamais dit ça. J'ai dit que j'en avais entendu parler la première fois
vous
il y a 30 secondes.
Vous êtes comme mon soldat hongrois, là, Andras Thomas.
Il nous faudrait un champollion parce qu'on est loin du compte. On a ainsi pu lire, on a déchiffré quelques mots. Oiseau, pénis, poisson, vulve, humain. On a traduit, traduction audacieuse, les oiseaux ont copulé avec les poissons, ce qui a engendré les premiers hommes. Mais bon, on n'est pas très sûr, hein, vous voyez. On est dans l'interprétation la plus totale du rongo-rongo. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Julie Victoire Daubier est née en 1824.
La première femme à avoir lu le bac. Ouais.
Elle me vole les mots de la bouche, donc c'est quand même beau. Effectivement, c'est uniquement la première femme qui s'est inscrite pour décrocher le baccalauréat et l'avoir obtenu. Puis, à 30 ans, elle est devenue journaliste sportive. Tout ça pour ça. Mais est-ce que c'est vrai ou faux ?
Je crois que c'est vrai. Non, pas journaliste sportive.
Non,
elle n'était pas journaliste sportive. C'est la première femme qui a eu le bac, mais je ne crois pas qu'elle ait fait de journalisme sportif, non. Je dis que c'est faux.
Vous avez gagné !
Carton plein cet après-midi dans le quiz. C'est faux, elle est devenue journaliste économique. Julie Victoire Daubier a beaucoup milité pour le droit de vote des femmes en particulier et a également mené de nombreux combats vers l'égalité en matière de mariage, de conditions de travail, de formation professionnelle pour les femmes. Un bel exemple. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Si je me trompe de mot, on peut dire que je parle mal à propos. Eh bien, le malapropisme est un mot qui non seulement existe, mais qui a été inventé par un Anglais au XVIIIe siècle. Vrai ou faux ?
Écoutez, qu'il puisse y avoir une forme de cuistrerie britannique à insérer des mots français dans la conversation mondaine. Et malapropisme ? Oh, c'est un grand malapropisme. C'est pas beau, hein, entre parenthèses. Mmh.
Enfin, vous qui êtes anglophile, vous devriez le savoir.
Alors vous me dites.
Eh bien, je dirais que les Anglais sont capables de tout et que donc c'est tout à fait possible. Donc je réponds oui.
Vous avez gagné.
Eh oui, les Anglais sont capables de tout. Richard Sheridan a 23 ans à Londres en 1775. Il écrit une comédie, The Rivals, dans laquelle un personnage se trompe de mots. Ce personnage s'appelle Miss Malaprop. On disait déjà parler mal à propos en Angleterre un siècle avant ce roman, cette pièce. Exemple de malapropisme, vous m'avez enduit en horreur.
Ah.
C'est donc un terme anglais. La question numéro 5 va vous départager, vous qui avez répondu brillamment à toutes les questions du jour. 17 juillet 1944, dans les rues de Moscou, l'Union soviétique procède à la marche des vaincus. Un défilé militaire qui va durer 4h20 minutes. 57 000 prisonniers de guerre allemands marchent en plusieurs cortèges. Quelle étonnante initiative a pris l'URSS pendant cette humiliante parade ? Des haut-parleurs disaient « Verlierer, Verlierer » pendant la marche, ça voulait dire « perdant » en allemand. Ils ont balayé juste derrière eux pour augmenter l'humiliation, où ils devaient se mettre à cloche-pied, les détenus, quand ils passaient devant une tribune de militaires.
3, 2, 1.
C'est une bonne réponse, Stéphane.
Quelle est la réponse, Stéphane ?
Eh bien, justement, ils devaient balayer derrière eux.
C'est une bonne réponse, mais Stéphane. Oui, vous le savez, vous avez vu les images. Des engins de nettoyage fermaient la marche. C'était censé effacer la marque du fascisme. C'était symbolique.
La saleté nazie.
Cette parade a été jugée par la suite contraire aux conventions de Genève au regard des traitements réservés aux prisonniers de guerre. On n'a pas les images, je crois, de ça. C'est pour ça que vous ne le savez pas, sauf Stéphane, évidemment, qui connaît le rongo-rongo et la Seconde Guerre mondiale comme personne.
(rire) 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Europe 1 et une certitude peut vous animer. Vous êtes au cœur de la meilleure émission historico-humoristique du monde et ce pour une raison simple, c'est la seule.
Mais Mathieu, chaque après-midi dans Historiquement vôtre, on vous raconte l'histoire sans se la raconter autour de trois personnages très différents mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, ils l'ont dit avec des fleurs. Après l'artiste Georgia O'Keeffe et ses peintures de fleurs qui ont fait sa notoriété, je vous raconte l'histoire d'une femme et surtout de la photo qui l'a rendue célèbre. Yann Rose Casimir est la jeune fille à la fleur. Sur cette photo mythique, on la voit brandir une fleur sous le nez des soldats pour dire non à la guerre du Vietnam. Elle avait 17 ans. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait, à 99% vrai, la Flower Street Artist. C'est un nouveau métier ?
Faut croire, Stéphane. À New York, en tout cas, il fait florès, si j'ose le jeu de mots. Il s'appelle Lewis Miller et il a eu l'idée d'égayer les rues de la Grosse Pomme en installant des compositions florales dans les poubelles. C'est assez déroutant, mais c'est très gai.
Ça sert à quoi ?
C'est très gai, Stéphane, c'est déjà bien.
Eux aussi sont très gais. David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines d'une aventure tellement gai. Le canal de Panama.
Ouais, le canal de Panama. C'est une histoire assez dingue que je vais vous raconter du début à la fin.
Parce que parfois, c'est-à-dire que ça.
Oui, je vais pas zoomer sur un moment.
Un privilège que vous nous faites avec les chroniques du début à la fin.
C'est vrai qu'on ne se lève pas le matin en disant tiens, j'aimerais bien qu'on me raconte l'histoire du canal de Panama. Mais après tout, pourquoi
et
pas.
Et vous avez tort, c'est comme ça qu'il faut se lever le matin.
Lui, le matin, à quoi il pense
et à la nourriture.
Et tout de suite.
Et un mets. Il remonte aux origines d'un plat, d'un mets.
D'un produit
et aujourd'hui un beau fromage qui porte le nom d'un célèbre gastronome, le Bria Savarin.
Exactement. Pourquoi s'appelle-t-il le Bria Savarin? D'où vient-il? Et puis surtout, pouvons-nous en manger si nous sommes origines? La réponse est non.
Non.
Ah, bah, ça, oui. C'est un épice.
Ah, bah, oui, en petite quantité, je dis toujours.
Mais comme lui, il ne bouffe rien du tout et il nous dit qu'il faut que vous compreniez
une chose. On ne peut pas en petite quantité.
Il n'y a que vous qui êtes capable de vous arrêter.
C'est le contrôle de soi.
Vous n'allez pas au bout des choses. Je n'ose imaginer.
De toutes les fleurs, puisque c'est notre thème cet après-midi, mes préférées sont clairement les pissenlits que vont bouffer David et Olivier dans l'épreuve de la lutte finale. Ce quiz qui vous permet, chers auditeurs, de découvrir qui dans l'équipe est vraiment pointu en histoire et qui est une brèche. Ce sera en toute fin d'émission. Pour l'heure, penchons-nous sur une photo, celle d'une jeune fille brandissant une fleur devant les baïonnettes. Stéphane Bern nous raconte Yann Rose Casmi.
L'une des photos les plus célèbres de l'histoire, une jeune femme fait face à un mur de soldats. Au fusil à baïonnette, elle oppose une simple fleur entre ses mains jointes comme une muette prière. Pendant de longues années, son identité est restée un mystère, aujourd'hui résolu. La fille sur la photo s'appelle Yann Rose Casmir. Elle a 17 ans et fréquente encore le lycée. Nous sommes le samedi 21 octobre 1967. De bonne heure, Yann Rose a quitté la maison familiale sans dire où elle allait, puis elle a pris le bus direction le centre-ville de Washington. Avant de sortir, elle a choisi une petite robe rose à l'imprimé fleuri. Des fleurs, déjà. Yann Rose s'est jeté dans la foule, autour du bassin du Lincoln Memorial, au centre de la capitale américaine. Ils sont presque 100 000, réunis dans l'espoir d'infléchir la politique de Lyndon Johnson. 2 ans auparavant, le président a augmenté la présence américaine au Vietnam. Dans un contexte de guerre froide, l'Asie est un terrain d'affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique, et le conflit s'enlise. Pour un nombre croissant d'Américains, cette guerre est un non-sens, pire, une honte. Dans les rues, Yann Rose Casmir croise des étudiants, des militants des droits civiques, des hippies. Sous des banderoles couvertes du signe de la paix, on scande des slogans bien inspirés, comme « I don't give a damn, I ain't going to Vietnam ». Je m'en fous de l'oncle Sam, j'irai pas au Vietnam. Le groupe folk Peter, Paul and Mary donne un concert dans les effluves de marijuana et le parfum des fleurs. Yann en attrape une au vol. Avec les plus déterminés des manifestants, elle marche désormais vers le Pentagone. La marée humaine de 50 000 personnes se heurte bientôt à un mur de soldats. Par crainte des débordements, le gouvernement a mobilisé des gardes nationaux et des militaires pour protéger le bâtiment. On en compte 10 000 en tout. Yann Rose s'approche des soldats. Soudain, pour elle, les armes ont un visage, et un visage si enfantin. Les jeunes militaires ont presque son âge, et l'adolescente en est sincèrement affligée. Ils auraient pu être un rancard, ils auraient pu être mon frère. Aucun n'ose croiser son regard. Comment peuvent-ils faire ce métier? Yann Rose les interroge, les interpelle, mais personne ne lui répond. Derrière leur baïonnette, les militaires tremblent pourtant, terrifiés peut-être, à l'idée de recevoir l'ordre de tirer sur cette foule pacifique. « Si vous regardez mon visage, je suis extrêmement triste », raconte Yann Rose. Justement, si l'on peut encore aujourd'hui admirer à loisir l'expression du visage de l'adolescente, c'est grâce au talent d'un photographe, le français Marc Ribou, qui se trouve à quelques mètres de là. Le reporter travaille pour la prestigieuse agence Magnum. Il parcourt la planète pour couvrir l'actualité brûlante et les mouvements sociaux avec une passion particulière pour la Chine de Mao. Ce jour-là, il est venu spécialement de Paris. Dans un autre rassemblement à Berlin, des sources l'ont prévenu qu'une manifestation monstre se préparait à Washington. Alors Marc Ribou a sauté dans un avion. Il a marché toute la journée, parcouru des kilomètres à travers la foule pour suivre les manifestants. Le soir venu, alors que les contestataires se dispersent et que les journalistes s'éclipsent, lui décide de rester. Les manifestants se sont répartis en petites troupes à la fin. Il ne restait presque plus personne, la nuit tombait. « J'ai eu de la chance, j'étais le seul à avoir cette scène », expliquera-t-il. Et quelle scène! Presque trop belle pour être vraie. À ceux qui l'accusent d'avoir fait un montage, Marc Ribou répond en publiant sa planche contact, l'ensemble des prises de vue de ce jour-là. On y voit Yann Rose danser, ouvrir les bras avant de prendre cette position finale, les mains jointes sur sa fleur de chrysanthème. C'est la dernière photo de la pellicule. Je bouge devant eux, je fais des gestes, je deviens théâtral, c'est mon tempérament, décrypte Yann Rose. Je brandis mon chrysanthème comme un objet vulnérable et sacré, et je les supplie de ne pas faire la guerre, d'arrêter la folie. La nuit tombée, Yann Rose rentre chez elle. Marc Ribot lui publie son travail. Immédiatement, la photo connaît un succès fou. Elle est reproduite dans des journaux, des magazines et plus tard sur des posters, des cartes postales. La fleur contre les fusils. Plus qu'un témoignage d'actualité, l'image est un symbole, celui d'une philosophie, la non-violence, et d'une époque, les années 60, porteuse d'espoir et d'idéaux. Personne ne sait alors qui est la jeune fille à la fleur. Une petite annonce, publiée dans un hebdomadaire new-yorkais, tente de la retrouver. Mais elle n'est affiliée à aucun groupe, aucun parti politique. Dans les milieux militants, personne ne la connaît. En réalité, Yann Rose Casimir est simplement curieuse, passionnée par le sort du monde, fascinée par Gandhi et Martin Luther King. C'est une jeune fille de son temps qui écoute les Doors et Janis Joplin et entend mener une révolution globale contre la société, le puritanisme, l'esprit moutonnier de la génération de ses parents. Elle goûte aux philosophies orientales et aux drogues en tout genre et pratique l'amour libre. L'année qui suit le cliché de Marc Ribot, en 1968, elle rompt avec sa famille, s'engage pleinement dans les manifs étudiantes, s'essaye à la politique qui l'écœure. Elle arrête ses études, tombe dans la drogue dure, alterne petit boulot et internement en hôpital psy. Elle réussit à s'en sortir, puis devient kiné. Finalement, c'est son père qui découvre, près de 20 ans plus tard et par hasard, l'image de sa fille dans un magazine de photos. En 2004, Yann Rose retrouve Marc Ribot à Londres, dans une manifestation, évidemment, contre l'invasion américaine de l'Irak, cette fois. Au milieu de la foule, le photographe immortalise à nouveau son modèle, qui tient dans ses mains la photo de 1967. Les années 60 n'ont peut-être pas tenu toutes leurs promesses, mais la jeune fille à la fleur, elle, n'a jamais trahi ses idéaux.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Yann Rose Casimir, nous sommes avec un autre grand photographe de l'agence Magnum, Patrick Zachmann. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Patrick Zachmann, vous êtes membre de la célèbre agence Magnum depuis 1990 et vous connaissez très bien Marc Ribot, l'auteur de La jeune fille à la fleur en 1967 qui nous a quittés en 2016. Pour vous qui avez l'œil aiguisé du photographe, qu'est-ce qui fait que cette photo est un cliché réussi ?
Déjà, il faut distinguer deux sortes de photographies. Il y a des photographies d'actualité, et c'est le cas en fait, et puis des photographies de rue, on va dire, en anglais ils disent le street photographies, photographie. Et là, quand on est dans le témoignage, la transmission d'un événement, je crois que ce qu'on demande aux photographes et aux images, c'est de symboliser cet événement, de synthétiser une situation avec évidemment le sens de l'esthétique, mais finalement ce qui prime, c'est peut-être la clarté du message. C'est-à-dire que ce sont des images en général directes, assez simples. Ce sont pas forcément, pour moi, les photographies les plus intéressantes, en fait. Mais c'est celles qui marquent l'histoire.
On a reproché à Marc Ribot d'avoir fait un montage. C'est vrai qu'il y a tellement tout dans cette photo que certains se sont dit, c'est pas possible, c'est trop beau, c'est un montage. Pour faire un cliché comme celui-ci, il faut être là au bon moment, bon ça évidemment, mais pas seulement. Qu'est-ce que ça suppose en amont comme regard pour réussir à choper ça ?
Pour réussir une photo de ce genre, il faut être, comme vous dites, évidemment, au bon moment, mais il faut aussi se placer au bon endroit. C'est ça aussi qui est important. Donc il faut regarder autour de soi, être en alerte, être très vif, et anticiper, en fait. Il faut anticiper, souvent. Voilà. Et puis après, c'est aussi la magie qui opère. Une bonne photo, c'est aussi une photo où il y a de la magie.
Je l'ai dit dans mon récit, il a fallu 20 ans pour savoir qui était cette jeune fille à la fleur. Elle a donc été publiée en 1967 sans l'autorisation de Yann Rose Casimir. C'est évidemment fréquent, mais elle aurait pu s'y opposer, évidemment.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. La beauté, je dirais, de la photographie de reportage, c'est la spontanéité. Mmh. C'est saisir un instant, un moment au vol. Et ça, évidemment, ça suppose qu'on ne peut pas demander l'autorisation aux gens, puisque sinon, l'instant, il a disparu. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu la contradiction, parce que si on se place sur du point de vue des gens photographiés, on peut comprendre qu'ils n'ont pas envie forcément d'être photographiés, d'être publiés. Mais si on se place du côté du photographe et de la mémoire et de l'histoire, c'est très important de se battre, en fait, pour continuer à avoir cette indépendance. De regard et cette liberté d'expression, chose qui n'existe pas dans, malheureusement, la plupart des pays dans le monde qui sont plutôt des dictatures. Donc, cette femme aurait pu dire peut-être son mécontentement au bout d'un moment parce qu'elle a été extrêmement publiée.
On en a fait des posters, on en a fait des cartes postales, tout
mais
ça.
Elle le savait de son vivant. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que son père découvre ça plus tard.
Oui,
Elle le savait qu'elle était sur la photo, puisque c'est devenu des cartes postales, des posters de propagande.
Mais vous savez, à l'époque, moi, je n'ai pas autant d'années derrière moi que Marc Ribou, mais ça fait quand même 40 ans que je fais ce métier, et je me souviens qu'il y a, je dirais, il y a 20 ans encore, et avant, les gens étaient contents quand ils se voyaient sur des photos, magazines, dans des magazines, moi, autour de moi.
Ils n'avaient pas le réflexe d'attaquer ou de...
Non, pas du tout, ils étaient
maintenant,
contents,
c'est quand ils ont
étaient
besoin
fiers.
D'argent, ils se souviennent, voilà, et... ils se souviennent qu'ils ont été photographiés il y a 30 ans,
disent,
comme pour l'album.
Je n'étais pas d'accord.
C'est ça, et maintenant, il y a eu tellement d'abus dans ce sens-là. Heureusement, la loi, maintenant, nous protège davantage. Et justement, au niveau de la loi, quand il s'agit d'un événement en plus d'actualité, quand ça se passe dans l'espace public, la loi nous protège au nom de la liberté d'expression.
Est-ce que le travail de Marc Ribou, c'était évidemment pas que la fille à la fleur, comment vous définiriez son travail, son style?
Écoutez, c'est un peu difficile, mais déjà, je dirais que c'est un photographe de reportage qui était un très bon journaliste aussi. Mais qui n'était pas d'ailleurs vraiment dans l'actualité. Il a croisé l'actualité. Et à Magnum, il y a beaucoup de photographes. Il y a des photographes d'actualité, mais en général, des photographes de rue, comme on dit, ou bien qui traitent des sujets de fond. Ça prend des mois, des fois des années. Marc Ribou avait cet esprit très curieux. Et puis, en empathie avec les autres. Donc, on pourrait dire que c'est un photographe humaniste. Dans cette tradition-là, et qui prenait quand même toujours un peu de recul et qui s'intéressait surtout aux gens et à l'évolution de la société, et évidemment à la Chine.
Merci beaucoup Patrick Zachmann. Je précise qu'on pourra admirer vos clichés dans deux livres qui paraîtront cet automne, en octobre. Voyage de mémoire aux éditions Xavier Barral et Notre-Dame, histoire d'une renaissance chez Bayard.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos personnages qui l'ont dit avec des fleurs continuent. On parle de Yann Rose Casimir avec notre invité, le photographe Patrick Zachmann.
Patrick Zachmann, vous êtes membre de la célèbre agence Magnum depuis 1990 et vous connaissez très bien Marc Ribou, l'auteur de La jeune fille à la fleur en 1967, qui nous a quittés en 2016. Pour vous qui avez l'œil aiguisé du photographe, qu'est-ce qui fait que cette photo est un cliché réussi?
Déjà, il faut distinguer deux sortes de photographies. Il y a des photographies d'actualité, et c'est le cas en fait, et puis des photographies de rue, on va dire, en anglais ils disent le street photography. Et là, quand on est dans le témoignage, la transmission d'un événement, je crois que ce qu'on demande aux photographes et aux images, c'est de symboliser cet événement, de synthétiser une situation avec évidemment le sens de l'esthétique, mais finalement ce qui prime, c'est peut-être la clarté du message. C'est-à-dire que ce sont des images en général directes, assez simples. Ce sont pas forcément, pour moi, les photographies les plus intéressantes, en fait. Mais c'est celles qui marquent l'histoire.
On a reproché à Marc Riboud d'avoir fait un montage. C'est vrai qu'il y a tellement tout dans cette photo que certains se sont dit « c'est pas possible, c'est trop beau, c'est un montage ». Pour faire un cliché comme celui-ci, il faut être là au bon moment, bon ça évidemment, mais pas seulement. Qu'est-ce que ça suppose en amont comme regard pour réussir à choper ça ?
Je me souviens, j'ai rencontré en fait Marc Riboud, moi j'étais très jeune, dans un avion qui nous menait en Chine. Moi, c'était mon premier voyage en 82, et lui, évidemment, c'était pas le premier. Mais il se trouve que je faisais des photos même dans l'avion déjà, c'est la compagnie chinoise, et ça l'a intrigué. Il est venu vers moi, il m'a dit
qu'est-ce que vous faites,
qui êtes-vous? Alors bon, j'étais tout jeune, je raconte, et il m'a donné quelques conseils.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit, par exemple?
Il m'a dit, écoute, en Chine, il faut que tu sois très patient. Il faut que tu sois très patient, très humble, et surtout, ne fais pas perdre la face aux Chinois.
Voilà,
je me souviens de ces conseils-là. Et je dis ça parce que en photographie, ben, il faut être patient. Pour réussir une photo de ce genre, il faut être, comme vous dites, évidemment, au bon moment, mais il faut aussi se placer au bon endroit. Mmh. C'est ça aussi qui est important. Donc, il faut regarder autour de soi, être en alerte, être très vif, et anticiper, en fait. Il faut anticiper, souvent. Voilà. Et puis après, c'est aussi la magie qui opère. Une bonne photo, c'est aussi une photo où il y a de la magie.
Je l'ai dit dans mon récit, il a fallu 20 ans pour savoir qui était cette jeune fille à la fleur. Elle a donc été publiée en 1967, sans l'autorisation de Yann Rose Casimir. C'est évidemment fréquent, mais elle aurait pu s'y opposer, évidemment.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. La beauté, je dirais, de la photographie de reportage, c'est la spontanéité. Mmh. C'est saisir un instant, un moment au vol. Et ça, évidemment, ça suppose qu'on ne peut pas demander l'autorisation aux gens, puisque sinon, l'instant, il a disparu. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu la contradiction, parce que si on se place sur du point de vue des gens photographiés, on peut comprendre qu'ils n'ont pas envie forcément d'être photographiés, d'être publiés. Mais si on se place du côté des photographes et de la mémoire et de l'histoire, c'est très important de se battre, en fait, pour continuer à avoir cette indépendance de regard et cette liberté d'expression, chose qui n'existe pas dans, malheureusement, la plupart des pays dans le monde qui sont plutôt des dictatures. Donc, cette femme aurait pu dire peut-être son mécontentement au bout d'un moment parce qu'elle a été extrêmement
publiée. On en a fait des posters, voilà. On en a fait des cartes postales, tout
mais
ça.
Elle le savait de son vivant. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que son père découvre ça plus tard.
Oui,
mais elle le savait.
Elle le savait qu'elle était sur la photo, puisque c'est devenu des cartes postales, des posters de propagande.
Mais vous savez, à l'époque, moi, j'ai pas autant d'années derrière moi que Marc Riboud, mais ça fait quand même 40 ans que je fais ce métier, et je me souviens qu'il y a, je dirais il y a 20 ans encore, et avant, les gens étaient contents quand ils se voyaient sur des photos, dans des magazines, moi, autour de moi.
Ils n'avaient pas le réflexe d'attaquer ou de...
Non, pas du tout, ils étaient
maintenant,
contents,
c'est quand ils ont
étaient
besoin d'argent,
fiers.
Ils se souviennent, voilà, ils se souviennent qu'ils ont été photographiés il y a 30 ans,
ils disent,
comme pour l'album.
Je n'étais pas d'accord.
C'est ça, et maintenant, il y a eu tellement d'abus dans ce sens-là. Heureusement, la loi, maintenant, nous protège davantage. Et justement, au niveau de la loi, quand il s'agit d'un événement en plus d'actualité, quand ça se passe dans l'espace public, la loi nous protège au nom de la liberté d'expression.
Et justement, d'un point de vue juridique, cette photo, comme d'autres photos comme ça, célèbres de l'histoire, du moment qu'elles ont été reproduites des milliers de fois, par exemple sur des cartes postales, elles appartiennent encore à leur auteur ou elles appartiennent à tout le monde? Par exemple, Riboud, il touchait des droits d'auteur sur cette photo ou plus du tout?
Oui, bien sûr.
Ah oui, toute sa vie, il a touché des droits d'auteur
sur
cette photo.
Oui, à part dans 70 ans après sa mort, ça tombera dans le domaine public. Mais sinon, bien sûr, parce qu'on est protégé, on gagne notre vie comme ça quand même. Et il faut surtout quand même ne pas oublier que pour une photo réussie et qui devient iconique et qui se vend beaucoup, nous, on en fait des... Non, même pas des milliers, on en fait des dizaines de milliers qui sont des fois publiés, mais très souvent, la plupart du temps, pas publiés. Et aujourd'hui, surtout les jeunes photographes, franchement, ils ont du mal. Ils ont vraiment du mal à vivre de la photographie parce qu'il y a de moins en moins de commandes et qu'ils font donc de leur propre initiative, ils vont faire des photos d'une manifestation,
sans
d'un
savoir
problème,
si ils sont
sans
payés
savoir.
Un jour.
Et en général, elles ne sont pas vendues. Elles ne sont pas vendues, donc il faut quand même garder ça en tête.
Il y a une rude concurrence, puisque maintenant tout le monde a un téléphone portable et tout le monde fait des photos de tout.
Voilà, et tout le monde se se croit photographe.
Tout le monde se croit journaliste et voilà, tout le monde se croit photographe, oui, c'est vrai.
Est-ce que le travail de Marc Riboud, c'était évidemment pas que la fille à la fleur, comment vous définiriez son travail, son style?
Écoutez, c'est un peu difficile, mais déjà, je dirais que c'est un photographe de reportage qui était un très bon journaliste aussi. Mais qui n'était pas d'ailleurs vraiment dans l'actualité. Il a croisé l'actualité. Et à Magnum, il y a beaucoup de photographes, il y a des photographes d'actualité, mais en général, des photographes de rue, comme on dit, ou bien qui traitent des sujets de fond. Ça prend des mois, des fois des années. Marc Riboud avait voilà, cet esprit très curieux, et puis en empathie avec les autres. Donc on pourrait dire que c'est un photographe humaniste, hein, dans cette tradition-là, et qui prenait quand même toujours un peu de recul, et qui s'intéressait surtout aux gens et à l'évolution de la société, et évidemment à la Chine.
Merci beaucoup Patrick Zachmann. Je précise qu'on pourra admirer vos clichés dans deux livres qui paraîtront cet automne, en octobre. Voyage de mémoire aux éditions Xavier Barral et Notre-Dame, histoire d'une renaissance chez Bayard.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui l'ont dit avec des fleurs. Après Yann Rose-Casimir, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un fleuriste qui est une véritable star aux États-Unis.
Écoutez, c'est la tendance du moment à New York, avec les inondations, les flower flashers. Vous ne connaissez pas les flower flashers, mais Stéphane, vous d'habitude si chébrant, toujours au courant des dernières tendances et tout disposé à moquer ceux qui ne le sont pas.
Tu connais pas les mamas shelter? Ah non, arrête, mais t'es pas cool.
Les flower flashers.
J'adore prendre l'accent
c'est
belge.
Comme... L'accent belge est snob. C'est la totale. Oui. Les flower flashers, c'est pareil, comme des flash mobs avec des fleurs. Et c'est mon personnage du jour, Lewis Miller, qui a inventé ce concept. Il faut dire que les fleurs, ça met tout le monde d'accord. Vous ne trouverez personne nulle part pour dire j'aime pas les fleurs, c'est moche. Les fleurs, non mais c'est vrai, ça n'existe pas. Les fleurs, c'est le cadeau idéal de ceux qui n'ont pas d'idée de cadeau. D'ailleurs, je le rappelle au passage, l'anniversaire de David approche à grands pas. L'année dernière, visiblement...
C'est quel jour,
Je vais vous le dire, mais ça, je le dis en fin de chronique. Dites-le tout de suite.
C'est le 16 septembre.
C'est le 16 septembre. Stéphane, c'est un jour à marquer d'une croix blanche dans votre agenda. D'ailleurs, je le rappelle au passage, donc, son anniversaire arrive à grands pas. L'année dernière, visiblement, il était content.
Non ! Un vibromasseur.
On s'était ruiné. Cette année, un bon bouquet de fleurs fera la fête. Car on peut tout dire avec les fleurs. Bon anniversaire, je t'aime, ou encore... Mon amour, tu es cocu et je suis rongé par la culpabilité, d'où ce bouquet. Pardon, je ne voulais pas coucher avec ma secrétaire pendant le séminaire à Bergerac. Oui, on peut tout exprimer avec des fleurs. Elles nous accompagnent partout, tout le temps, lors d'un rendez-vous galant, lorsque timidement, ce vendeur pakistanais qui vend aussi des oreilles de Mickey clignotantes et un paquet de Marlboro à 22 euros s'approche de nous. Lorsqu'on traverse un village moche mais qu'on aperçoit le panneau Ville fleurie et que ça met quand même un peu de baume au cœur.
Oui, c'est vrai.
Lewis Miller, lui, se démène pour que la ville de New York obtienne ce précieux label Ville fleurie, grâce donc à ces fameux flower flashers. Mais qui est Lewis Miller et qu'est-ce qu'un flower flasher? Alors, au premier coup d'œil, selon Wikipédia, Lewis Miller est né dans l'Ohio au 19e siècle et aurait fait fortune en tant qu'inventeur de la première moissonneuse-batteuse avec lame montée à l'avant. Il aurait déposé un total de 92 brevets, j'en ai lu 76 et au 77e, j'ai compris qu'on avait affaire à un homonyme. Lewis Miller,
vous avez
le vrai,
mis le temps, hein.
Le nôtre en tout cas. Oui, mais je suis quelqu'un qui va au bout des sujets. Notre flower artiste, lui, est surnommé le Banksy des fleurs. Il égaye les rues de New York en installant ses constructions florales dans des endroits les plus improbables et les plus sales aussi de la ville. Murs criblés de graffitis, poubelles, bouches d'égouts, bouches de métro, bouches d'incendie, feux de signalisation, amochés, panneaux tordus. Il aime embellir le lait. Quoi, Stéphane ? Il y aurait du boulot à Paris ? Oui, il peut venir à Paris, il peut venir, effectivement, ça nous aidera. Déjà paysagiste et designer floral de renom, il décide un jour de redonner un peu d'âme et de poésie à la rue. Le concept de ce qu'il appelle ses flower flashers, récupérer des fleurs non utilisées des événements divers dans lesquels il travaille, et en moins de 20 minutes, réussir à créer pendant la nuit de véritables sculptures florales. Des installations végétales sous forme de pop-up, dans le but purement altruiste de, je cite, « réussir à faire sourire quelqu'un, illuminer sa journée à travers les fleurs, l'inattendu ». Et pour ce projet, Lewis Miller est accompagné d'un bras droit, elle aussi faiseuse de magie, une certaine Irini Arakas Greenbaum qui est chargée d'écumer la ville à la recherche de ce qu'elle appelle la Kate Moss des poubelles. soit la meilleure poubelle capable de prendre vie avec les roses, les pivoines, les lys et les œillets drapés autour d'elle. Je ne sais pas si Kate Moss a connaissance de cette expression, mais elle doit être ravie de ce rapprochement. Ça doit être super agréable d'avoir son nom accolé au mot poubelle. D'ailleurs, au restaurant, j'ai été au Stéphane Bern des chiottes. Hein, vraiment des super chiottes, marbre de Carrare, sublime. Lewis Miller explique avec lyrisme son projet. On peut dire ce qu'on veut, mais les fleurs sont présentes à chaque moment important de notre vie. Ce sont, pour ainsi dire, nos cheerleaders personnels. Le principe des flower flashers est donc simple. Servez-vous. Les passants peuvent cueillir une simple rose pour les plus mesurés ou se composer carrément un bouquet pour les plus radins. Pour repérer ces fameux flower flashers, il faut être vif puisque le succès est tel qu'une véritable guérilla de fleurs fait rage à chaque fois. La composition disparaît aussi rapidement qu'elle est apparue, c'est pas grave, Lewis aura offert un peu de bonheur aux New-Yorkais. Mais qui est donc cet altruiste admirable qui agit de manière presque totalement désintéressée ? Lewis grandit en Californie, là où des gens insolemment bien gaulés se baladent toute la journée en pantalon de yoga, en lycra, boivent des smoothies au jus de bouleau et se font des hugs en criant « Oh my God !» Bien résumé, la Californie. Fils de jardinier, Lewis se souvient. J'étais un garçon différent des autres. Après la messe du dimanche, les femmes de la famille se réunissaient dans la cuisine et les hommes se retrouvaient entre eux au salon. Quant à moi, je restais dans la salle à manger pour décorer la table. J'ai toujours eu une attirance pour ce qui est beau. Oui, un gamin différent, mais formidable, qui décore la table et qui, contrairement à Castello et moi, ne perdait pas son temps devant Dragon Ball Z. Dans lui, il adorait aller au musée. Enfant, j'adorais les tableaux des primitifs flamands et tout particulièrement leur façon de représenter les fleurs. Savez-vous que beaucoup de natures mortes représentées sur les œuvres de cette époque n'ont jamais existé dans la réalité? En effet, les espèces de fleurs de ces compositions florales s'épanouissaient à des saisons différentes. Elles n'existaient donc que dans l'imagination de l'artiste sur la toile. Ah oui, Lewis Miller est fabuleux, mais il est chiant. Stéphane, on se réveille, vous bavez. Après le bac, Lewis étudie l'horticulture à Seattle avant de rejoindre New York, où il bosse un temps pour le plus grand fleuriste de la ville, avant de se lancer à son compte en 2002. Le succès est immédiat, il devient incontournable dans le milieu de la mode, du design, de la photo. Tout va bien pour lui, mais pas pour ces tristes New-Yorkais qu'il croise chaque jour dans la rue et qui tirent la gueule. Un vendredi pluvieux, il se dirige vers le métro. Les gens sont courbés, fatigués, désabusés. Lewis a quelques fleurs à la main et là... Selon Lewis, les passants auraient vu les fleurs en question et leur vie aurait littéralement changé. Il dit « Les expressions que j'ai vues s'épanouir sur le visage des passants étaient extraordinaires. Les fleurs ont ce don magique d'offrir un sentiment instantané de bien-être. » Mais qu'on est con, Stéphane, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Bien sûr, allez, direction Kaboul, on fait un saut chez Interflora et hop, on se pointe avec des bouquets, quelques mots apaisants.
« The show must go on. »
Et en deux minutes, les gus auront oublié les talibans. Magie des fleurs. Bref, l'idée du flower flash est née, elle est belle et surtout... plus importante encore, elle est instagrammable. New York dit merci à Lewis pour cet acte gratuit, philanthrope simplement humain, même si, sur un malentendu, par hasard et presque accidentellement, Lewis en a fait un business assez lucratif. Ça s'est fait comme ça, hein. Une idée en appelant une autre. Il tire ses revenus aujourd'hui principalement de ce qu'on appelle les Flower Fresh Boxes, des boîtes de fleurs fraîches qui permettent de faire sa propre installation chez soi. C'est malin, sur son site on trouve aussi des bougies parfumées.
J'adore.
À $60 la bougie, tu peux. En tout cas, il faut reconnaître que ces compositions florales sont de pure merveille. Tenez, je vous ai apporté là, ici, quelques photos pour que vous puissiez vous faire une idée. Regardez-moi ça, Regardez-moi ça, David, est-ce que c'est pas beau,
c'est beau, c'est
tiens,
beau.
On dirait une zézette de fille.
Mais non, c'est un géranium qui s'évade d'une poubelle. Oh, mais ça fait longtemps que vous n'avez pas vu une zézette de fille, vous, c'est pas possible.
Oh, ah oui, c'est magnifique.
J'aime
beaucoup les fleurs dans les cabines téléphoniques. Merci beaucoup, Mathieu.
Bah, c'était beaucoup, mais c'est très beau,
c'était 99% vrai. Il y a donc 1% de faux, mais vous avez repéré. Hein.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour.
Oui, qui ont eu le mérite de vous montrer qu'il existait d'autres fleurs que les fleurs de lys, Stéphane. Nous entrons dans la dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre, celle où on joue à la lutte finale. Et on comprend surtout, enfin, à quoi servent David Castello-Lopez et Olivier Pouls, qui jusqu'à ce moment de l'émission n'ont, avouons-le, qu'un rôle décoratif. Mais maintenant, c'est l'heure de passer à l'action.
Ça tire à balles réelles maintenant.
Olivier Pouls, le brillant.
On est un peu les fleurs du studio. Quoi.
Vous êtes mon Yuka Bell. Olivier Pouls, vous nous parlez du Brillat Savard.
Oui, fromage délicieux, irrésistible même, même si ce n'est pas l'ami du régime. Mais je vous raconterai d'où il tire son nom et son origine. Mais et puis une recette suite. D'ailleurs.
Évidemment.
Ah oui. Aussi, évidemment, avec à base de Brillat Savard, parce qu'il marche très bien en cuisine.
Mais avant cela, David Castello-Lopez, dont c'est l'anniversaire le 16 septembre, je ne sais pas si je vous l'ai dit, arrive pour nous parler des origines du canal de Panama.
Oui.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est vrai, quand on regarde une carte du monde, et en particulier une carte du continent américain, on se dit, c'est quand même étrange, hein, cette minuscule bande de terre qui sépare les deux parties. C'est, le continent américain, en gros, il fait 5000 km de large au niveau des États-Unis, à peu près autant au niveau du Brésil, mais il fait seulement 80 km de large au niveau du Panama. Alors évidemment, c'est rigolo, mais si l'objectif, c'est de se déplacer, eh bien, cette taille de guêpe du continent américain, elle est un petit peu énervante. C'est-à-dire que si vous voulez aller de New York à San Francisco en bateau, sans le canal, il faut faire un détour de 15 000 bornes par le Cap Horn. Et donc, pour pallier cette chose relou, les gens, ils se sont dit assez tôt, en fait, dès le 16e, 17e siècle, que ce serait super de faire une petite rivière, faire un petit canal au niveau du Panama pour passer d'un océan à l'autre. Et le premier qui a vraiment essayé, c'est le seul constructeur de canal dont on connaît le nom, Ferdinand de Lesseps. Voilà, si on en connaît un, parce que c'est vrai que
on peut aussi, comme moi, en connaître zéro.
On connaît zéro, mais si on en connaît un, c'est celui-là. Ferdinand, il avait construit le canal de Suez, donc au milieu du 19e siècle. Ça avait été un succès massif qui non seulement l'avait rendu super riche, mais en plus avait fait de lui une sorte de méga resta des travaux d'infrastructure dans le monde. Et Ferdinand, donc, avec toute cette crédibilité, il s'est dit, attends, mais je peux faire la même chose au Panama sans problème. Et c'est vrai que sur le papier, ça paraissait assez possible, parce que le canal de Suez, il faisait quand même 200 km, alors que la distance à parcourir pour le canal de Panama, c'est 80, donc c'est beaucoup moins, on se dit que c'est possible. Donc Ferdinand, il a levé des quantités d'argent phénoménales, et en 1880, il a commencé les travaux, sauf que, bien sûr, il avait complètement sous-estimé la difficulté de creuser le canal. C'était incroyablement plus difficile à faire que le canal de Suez, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le canal de Suez s'est construit dans un endroit où que c'était plat, en fait. Et le canal de Panama, pour le faire, il faut enlever une montagne, en fait. Et c'est beaucoup plus difficile. La seconde, c'est que l'endroit du canal de Panama, c'était une jungle infestée de serpents et de moustiques. Et la troisième, c'est que la moitié de l'année, la rivière qui passe par là, qui s'appelle la Chagresse, elle était en crue et elle inondait tout sur son passage, et en particulier les trous qu'on creusait pour faire le canal. Et au bout d'une dizaine d'années, ils ont arrêté. Et à ce jour, la tentative de Ferdinand, c'est peut-être un des échecs les plus tonitruants de l'histoire de France. Ça a coûté 1 milliard de francs à l'époque, 4 milliards d'euros aujourd'hui. Ça a ruiné un nombre incroyable de gens qui avaient investi dans les travaux. Ça a fait 20 000 morts, la plupart des Antillais qui sont morts dans des accidents, et surtout qui sont morts de la fièvre jaune. Et Ferdinand, il a même été condamné par la justice française, et il est mort à moitié fou quelques années plus tard. Et ruiné, complètement ruiné. Mais un petit peu plus de 10 ans plus tard, les États-Unis, ils se sont dit qu'il y avait un coup à jouer. Ils étaient dans un moment où ils se sentaient un petit peu en confiance. Enfin, c'était le début du moment où les États-Unis se sentaient super en confiance. Mais il y avait un truc qui les énervait un petit peu dans cette perspective, c'est qu'à cette époque, le Panama, c'était pas un pays, c'était une province qui appartenait à la Colombie. Or, les Américains, ils voulaient, avant de commencer les travaux, avoir la souveraineté totale sur la zone où ils allaient creuser le canal. Sauf que les Colombiens, ils leur ont dit, c'est mort. Complètement, vous n'aurez jamais la souveraineté sur cet endroit-là. Alors, les Américains, ils ont fait quoi ? Ils ont soutenu un mouvement indépendantiste.
Ça ressemble pas beaucoup aux Américains, voilà. Je ne sais pas ce que vous racontez
ils
là.
Ils ont soutenu un mouvement indépendantiste panaméen dans sa lutte contre la Colombie. Et une fois que les indépendantistes ont réussi leur coup, ils ont déclaré leur indépendance, les Américains, ils leur ont dit « Ouais, mais maintenant, vous nous donnez la souveraineté sur la zone où on doit construire le canal. »
Ils avaient même négocié avant, je pense.
Oui,
hein,
c'était un petit peu négocié avant. Apparemment, les Panaméens, ils ont été un peu surpris par la zone quand même que demandaient les Américains. Ils n'ont pas été si contents que ça, mais c'était trop tard. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et le 4 mai 1904, les travaux américains du canal de Panama ont pu commencer. Alors, dans un premier temps, ils se sont embourbés à peu près exactement comme les Français, et pour les mêmes raisons. La fièvre jaune, qui n'arrêtait pas de tuer tout le monde, et deux, la quantité phénoménale de terre qu'il fallait enlever de cet endroit complètement inhospitalier. Mais contrairement aux Français, ils ont réussi à régler tous ces problèmes. Comment ? Eh bien d'abord parce qu'ils ont fini par comprendre que la fièvre jaune, elle était transmise par les moustiques. À l'époque, c'était une théorie parmi d'autres qui était minoritaire dans le monde médical, alors qu'en fait, c'était la vérité. Et donc, ils ont dépensé des millions de dollars pour éradiquer les moustiques de la zone de construction de canal. Et ils ont réussi, du même coup, à éradiquer la fièvre jaune. Deuxièmement, ils ont mis en place un système ferroviaire de malades mentales pour évacuer les centaines de milliers de mètres cubes de terre qu'ils enlevaient. Et enfin, surtout, ils ont décidé, au lieu de faire un canal au niveau de la mer, comme voulait le faire Ferdinand de Lesseps, de faire un canal à écluse qui permettait de monter la montagne et de la redescendre sans quitter les bateaux. Et donc d'avoir beaucoup moins à creuser puisqu'il ne fallait pas enlever toute la montagne. Ça a quand même pris 10 ans, ça a pris 5000 morts de plus. Mais le 15 août 1914, le canal de Panama a été ouvert. Depuis, ça fait un peu plus de 100 ans, il y a plus d'un million de bateaux qui y sont passés. En moyenne, ils prennent presque 12 heures à traverser le canal, mais c'est quand même beaucoup mieux que de passer par le Cap Horn, ce qui prend, je pense, à peu près 8 jours de plus.
Et puis qui est très dangereux.
Voilà, en plus.
Merci David. Ah oui. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement votre émission qui remonte aux origines de notre quotidien. Et notre quotidien, c'est évidemment le fromage. Mais pas n'importe lequel aujourd'hui, Olivier Pouls.
Bon, on aurait pu faire un plateau de fromage, mais j'en ai choisi un. Je ne sais pas si vous l'aimez, si vous en consommez de temps en temps. Le Bria Savarin, ça vous parle? Vous voyez de quoi je veux parler?
Je crois que je confonds avec le Vacherin.
Ouh là là.
Ah oui, non, c'est pas tout à fait la même chose.
Oh là, alors, beaucoup de lacunes fromagères, hein, cette table.
Ouais, alors, le Bria Savarin, c'est ce qu'on appelle un fromage à croûte fleurie à pâte molle. Mmh. C'est un fromage très gourmand, évidemment, et irrésistiblement gras. Mmh. On va y revenir dans un instant. Ouais, il fait partie des fromages les plus caloriques. Dans le top 10, je crois qu'il est classé numéro 3 ou numéro 4. Donc autant vous dire qu'en période de régime, on va éviter d'en prendre de trop grosses portions. Alors, il faut savoir qu'il est le descendant d'un autre fromage créé par la famille Dubuc à la fin du 19e siècle et qui s'appelait l'Excelsior ou le délice des gourmets. Il était créé en Seine-Maritime à Rouvray-Catillon et il était alors mangé dans les grandes occasions et lui déjà battait tous les records en termes de matière grasse puisqu'il atteignait entre 72 et 75% de matière grasse. C'est ce qu'on appelle un fromage double ou triple crème. Même c'est donc on rajoute de la crème. Bah, c'est ce qui fait son goût, hein, son onctuosité. Faut savoir qu'il est quand même surnommé le foie gras des fromages. Hein. C'est vous dire que bon,
tout
voilà.
Est dit.
Alors c'est un fromage à l'origine au lait de vache, au lait cru bien sûr. Alors aujourd'hui malheureusement il est souvent fait avec du lait pasteurisé. Je vous l'ai dit, de la famille des pâtes molles à croûte fleurie. Alors, d'autres producteurs ont repris cette recette hein, donc de l'Excelsior, dont l'entreprise Le Petit à Saint-Maclou. Et alors, une théorie qui dit qu'au début des années 1930, le nom d'Excelsior aurait été déposé par l'entreprise qui avait repris Le Petit, qui s'appelait Beignet. Et donc, il a fallu trouver une autre dénomination à ce fromage, puisque tous ceux qui en faisaient n'avaient plus le droit d'utiliser le nom d'Excelsior, marque déposée. Et c'est donc un célèbre fromager parisien de l'époque, Henri Androuet, qui aurait eu l'idée de l'appeler le Bria Savarin, pour rendre honneur évidemment à ce grand gastronome français, auteur de La physiologie du goût, paru en 1826, et considéré comme un ouvrage assez fondateur sur notre gastronomie. C'est un des ouvrages majeurs de l'histoire, et donc le nom de Bria Savarin a été donné à ce fromage qui, depuis 2017, bénéficie d'un label d'indication géographique protégée qui est beaucoup plus large que sa région d'origine puisqu'elle regroupe aujourd'hui la Bourgogne et la Franche-Comté, entre autres. Et c'est dans ces deux régions que l'on produit aujourd'hui le plus de Bria Savarin. C'est un fromage qui se cuisine extrêmement bien parce que le gras est un support de goût. Et mon cher Mathieu, je sais que vous êtes amateur de fromage truffé.
Et
à la saison de la truffe, l'un des fromages qui se marie le mieux
le
avec la truffe.
Ah oui.
Vous essayerez le Bria Savarin, ça marche enfin, encore mieux. Parce que le Bria Savarin est moins marqué en termes de goût. Et je trouve que le Brie, la force du Brie, quand il est vraiment bon, écrase parfois un petit peu la truffe. Et comme il y a beaucoup de matière grasse, cette matière grasse capte les molécules aromatiques de la truffe. Hein.
Arrêtez d'avoir un orgasme. Ouais,
oui, vous pensez que ça fait moins grossir quand il y a de la truffe dedans?
Non, pas du tout.
Il y a un champignon, c'est bien.
Pas du tout, mais ça justifie peut-être un peu plus qu'on accepte de prendre ces kilos, c'est pour la bonne cause.
Voilà.
Mais bon, il n'y a pas que des recettes, évidemment, à la truffe pour le Bria Savarin. Il accompagne parfaitement bien les pommes de terre, un petit gratin de pommes de terre au Bria Savarin, ça marche bien. L'associer à la moutarde, si vous voulez faire un accord régional Bourgogne-Bourgogne, la moutarde de Bourgogne, les graines de moutarde et le Bria Savarin, ça marche bien. Mais moi, je vous propose de faire une, dans la légèreté, une petite quiche Au Breillat, ça marche très bien. Alors, pour l'alléger, vous allez rajouter un peu de courgette dedans, ça va donner bonne conscience. On va faire un appareil assez classique, hein, avec un demi-Breillat savarin, avec des dés de jambon, avec des courgettes, avec une cuillère de moutarde, qui a un petit peu de crème liquide, un oignon, de la ciboulette hachée, deux œufs, on mélange tout ça. Et on farcit une pâte feuilletée, par exemple, ou une pâte brisée qu'on aura cuite à blanc, donc pré-cuite. On farcit tout ça, 200 degrés, le four, une trentaine de minutes. Et là, vous avez, voilà, une pâte à quiche un peu roborative, mais vraiment délicieuse au Breillat savarin.
Et voilà, wow. Un petit verre de Bourgogne et de la crise cardiaque derrière, et on est bien. Merci beaucoup,
Olivier. Faites un peu de sport et vous éliminez tout ça.
Oui, j'essaye, mais il faut faire beaucoup de sport pour compenser le Breillat savarin. On retrouve toutes vos recettes.
390 calories au 100 grammes.
Ah mon Dieu.
390 calories.
C'est comme le beurre, en fait.
On n'a qu'à manger du beurre, comme ça, directement. Merci, Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr, et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Oui, absolument.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Des pissenlits pour David, des chrysanthèmes pour Paul, c'est une couronne de laurier pour moi. Voilà comment je conçois le quiz de la lutte finale. Le problème, c'est que dans la vie en général, il y a une grande différence entre ce que je conçois et ce qui se produit réellement. C'est la lutte finale, Stéphane.
Vous connaissez le principe, une question pour chacun, s'il y a égalité, des partages. Olivier.
C'est de plus en plus télégraphique.
Oui,
quoi.
Parce
c'est
que maintenant, voilà, les auditeurs nous connaissent bien. Et puis, je préfère qu'on passe plus de temps sur les questions et puis permettre à chacun de réfléchir un peu avant de dire n'importe quoi. Alors, Olivier Poul, c'est pour vous. Frank Sinatra aimait bien chanter avec un big band. Mais est-ce qu'il a vécu suffisamment longtemps pour entendre parler du Big Bang?
Qui a théorisé le Big Bang?
Ça, vous devriez le connaître, lui, parce que... Pardon, je ne vais pas vous aider, vous donner un indice, mais...
Albert Einstein ?
Non, mais c'était un Belge, alors.
Ah là. Ouais. Oui, mais enfin, moi, je ne connais pas tous les Belges.
Mais tous les Belges vous connaissent, c'est ça la différence.
C'est bien l'essentiel.
Je dirais oui.
Ah oui, mais c'est gagné. À mon avis.
Mais il est mort il y a 10
ans. Oui, largement. C'était la BBC.
Largement, c'est quoi cette question?
Oui, mais attendez, parce que c'est toute la
non,
question.
Non, c'est sûr, nous, avec David, on n'est pas d'accord. Voilà. Hein, nous aussi, on veut des questions.
C'était la BBC. En quelle année, à votre avis, on a entendu parler du Big Bang?
En 1968.
1949.
Ouais. Encore plus tôt, oui.
Que le mot est prononcé pour la première fois par le physicien Fred Hoyle. La théorie est née d'un Belge, Georges Lemaître. Et Sinatra est mort en 1998.
Bah oui, Sinatra faisait encore des duos. Moi, j'avais ses CD dans les années 90. Ah oui. Évidemment,
ne dévalorisez pas ma victoire.
Excusez-moi, mais ce point n'a aucune valeur. Continuons. Bon.
David Kessel-Lopez, cette question s'adresse à vous. Vous voyez la statue de Jeanne d'Arc à cheval à Paris, près de la rue de Rivoli. Là. Mm-hmm. Oui, bien, inaugurée en 1874, à l'origine, elle n'était pas à cheval. Elle a été remplacée par celle que l'on connaît en 1898. Vrai ou faux?
Bon, regardez pas comme ça, David, là, c'est pas moi qui ai les questions.
Je sais pas, elle était pas à cheval au début.
Elle marchait, puis finalement, elle a dit oh, bah, elle sera mieux à cheval. On l'a mise à cheval.
Pourquoi on aurait fait ça? Ça paraît quand même. Et puis, si peu de temps après, il n'y a pas j'aurais envie de dire pourquoi pas, mais en fait, je vais dire c'est faux.
Vous avez raison. Elle était bien à cheval. Mais la statue d'origine a quand même été remplacée. La première avait beaucoup été critiquée pour ses proportions. Pendant la construction du métro, il a fallu la retirer. Et l'auteur Emmanuel Fieré en a profité pour la refaire et la remplacer. Voilà. Donc on a bien remplacé la statue, mais celle d'avant était aussi à cheval. Okay. Mathieu, la Voie lactée dans la mythologie grecque...
Ah non, la mythologie grecque, non!
Si, votre fils adore.
Mais oui, à chaque fois, il se moque de moi après, il me dit c'est la honte.
Ben justement, ça nous amuse. La Voie lactée dans la mythologie grecque vient du téton d'Aphrodite. Vrai ou faux?
Bon, la Voie lactée, il la voyait aussi à l'époque, donc pourquoi pas dans la mythologie? La Voie lactée, on l'a appelée la Voie lactée. Et on l'a appelée la Voie lactée, pourquoi?
Galaxie. Galax, c'est le lait en grec.
Mais donc là, vous me donnez une réponse pour m'orienter.
Non, ça vous aide pas du tout.
Pas du tout. Bon, alors je répondais vrai.
Comme le chocolat.
Oui, Galax. Oh non.
Comment ça
La Voie lactée vient bien d'un téton. Mais ce n'est pas du téton d'Aphrodite.
C'est du téton d'Artémis ou je sais pas quoi.
C'est du téton de Héra.
C'est scandaleux.
La déesse du mariage gardienne de la fécondité.
C'est dégueulasse.
Votre fils doit faire la différence entre le téton de celle qui incarne l'amour et de celle qui est la gardienne de la fécondité et du mariage. Voilà, oui. Parce qu'il a plus de moralité que vous.
Mais vous devriez avoir honte pour cette question, Stéphane. Je sais qu'au fond de vous, vous avez honte.
Face à face finale entre Olivier Pouls et David Castello-Lopez, la question qui départage. C'est celui qui donne la réponse la plus proche.
Oui, hein, on sait,
vous, vous connaissez. Oui, mais les auditeurs n'ont peut-être pas encore saisi. Moi, ce que j'aime dans le quiz, c'est quand on ne comprend même pas. Charles de Gaulle, notre général, avait beaucoup de prénoms. Mais combien ?
J'en sais rien.
Il alors, avait 6 prénoms.
6 prénoms pour vous, combien pour vous ?
4.
C'est David qui
oh
gagne.
Non ! Mais non !
Écoutez, comptons ensemble. Charles, André, Joseph, Marie de Gaulle. Ça fait 4.
Oh, pile !
Donc, c'est pas le plus proche, non, c'est exactement
l'exactitude. La rigueur portugaise.
La joie qui se lit sur son visage.
Il a beaucoup de prénoms. Oui. 4, c'est pas beaucoup.
Moi, j'en ai un, par exemple. Ah, vous voyez,
ouais, moi aussi, j'en ai qu'un. Mais... Voilà.
Écoutez, en tout cas, un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré au pouvoir des fleurs. On n'aura pas changé le nom de Stéphane ni les hommes, mais on aura découvert 3 figures passionnantes. L'artiste Georgia O'Keeffe, Yann Rose Casimir, la jeune fille à la fleur, et le flower artist Lewis Miller. Lequel de nos personnages vous a donné envie d'acheter des fleurs, Stéphane ?
Alors, ce qui me donne envie d'acheter des fleurs, c'est Lewis Miller, parce que je trouve que c'est très beau.
Oui, c'est beau.
C'est
oui.
Très beau ce qu'il fait, mais c'est vrai que j'ai été un peu ému par le destin de Yann Rose Casimir, et puis j'irai voir l'exposition de Georgia O'Keeffe.
Ah, Georgia O'Keeffe, faut aller la voir, ouais. Parce que vraiment en France, on
ça
la connaît pas.
Ça m'a vraiment donné envie.
On la connaît pas très bien, et au Centre Pompidou, vous allez la découvrir. C'est une des plus grandes peintres de l'histoire américaine. Moi, j'adore les fleurs, Stéphane, je dis ça comme ça. Si jamais demain, vous voulez m'apporter un petit bouquet.
Oui, mais c'est pas votre anniversaire.
Bon, bah, mais quand même, ça
d'accord,
fait toujours plaisir.
D'accord, je vous apporterai des fleurs, très bien. J'ai des pissenlits dans mon jardin, vous allez voir, c'est super. On se retrouve demain. Hein, à demain les amis, à
volontiers.
Demain chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.